Vous écoutez On lit pour vous.
Dégoût en éponge, l'adaptation climatique en différé, c'est le titre d'un éditorial de Marie Vastel, publié dans Le Devoir du 26 juin 2026. Tel le solstice d'été qui revient à pareille date chaque année, les pluies torrentielles et les inondations qui les accompagnent furent fidèles au rendez-vous pour lancer la saison estivale il y a quelques jours. Un énième épisode de météo extrême accueillit à son tour d'appels citoyens à de pressantes mesures d'adaptation climatique ainsi que des promesses politiques de s'y atteler sans tarder afin de mettre à niveau les égouts des municipalités tout en transformant ces dernières en villes-éponges. Il y a toutefois fort à parier qu'une fois l'été, les ravages de ces orages violents, de ces vagues de chaleur ou de ces feux de forêt passés, l'urgence de s'y adapter pour mieux s'y préparer sera, avec le retour tout aussi cyclique de l'automne, une fois de plus aussitôt oublié. Les récents étés se suivent et se ressemblent pourtant dangereusement. Les inondations, comme celles subies par des résidents de l'ouest de l'île de Montréal, ne sont plus uniquement l'œuvre de crues printanières en bord de cours d'eau menaçants, mais désormais aussi celles de « zones de cuvette » où des précipitations records reçues en l'espace d'à peine quelques heures submergent les réseaux d'aqueducs et engloutissent les rues pour en faire de véritables lacs et rivières. Des quartiers aux résidences soudainement mal adaptées aux nouvelles réalités climatiques, dont les dommages ne sont souvent pas couverts par les compagnies d'assurance, ni même les programmes d'aide du gouvernement, quoiqu'ait d'abord prétendu la première ministre Christine Fréchette. Et le nombre de telles catastrophes climatiques n'ira qu'en augmentant, le Canada se réchauffant deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Des régions du sud du Québec et de provinces canadiennes enregistrent déjà deux ou trois journées de fortes pluies supplémentaires par année. Les dégâts, mais également les factures, sont en outre à l'avenant. La tempête post-tropicale Debbie, qui a frappé le Québec et l'Ontario il y a deux ans, avait causé pour 2,8 milliards de dollars en pertes assurées. La moyenne annuelle de tels dommages en raison d'inondations atteint de surcroît 800 millions de dollars depuis 10 ans, selon le Bureau d'assurance du Canada, auxquels s'ajoutent des milliards en frais de santé, en dégradation projetée de routes et de voies ferrées, en destruction de réseaux électriques et d'autres infrastructures essentielles. À l'inverse, chaque dollar investi en adaptation climatique rapporterait entre 13 et 15 $ en bénéfices directs et indirects, selon l'Institut climatique du Canada. Nonobstant la facture liée aux infrastructures vieillissantes ne cesse de s'allonger pendant que les investissements consentis pour les entretenir, sans même s'atteler à de nécessaires nouveaux aménagements de résilience environnementale, demeurent obstinément insuffisants. L'incohérence de cet attentisme, pendant que le réchauffement climatique inonde, assèche et brûle à la fois, en temps réel, est nonobstant généralisé. D'un G7 composé de pleutres face au président américain climato-sceptique, au gouvernement canadien du décevant renégat environnementaliste Mark Carney, en passant par le gouvernement caquiste à Québec, qui s'en inspire pour assouplir pareillement son action climatique. La réplique lucide aux inondations de la fin de semaine dernière de la mairesse de Montréal, Saroya Martinez-Ferrada, fut encourageante pour la suite. La tâche de rattrapage et d'adaptation est cependant colossale. Et cette nouvelle saison de catastrophes naturelles estivales, quant à elle, ne fait que commencer. Quels ravages causeront les vagues de chaleur suffocantes à venir, comme celle qui s'abat présentement sur l'Europe, de pareilles canicules ayant contribué à non moins de 3 500 décès au Québec depuis 2020? Quelles destructions laisseront derrière eux les prochains feux de forêt, dont les risques ont désormais plus que doublé en raison du climat déréglé, sachant qu'Environnement Canada vient de prédire d'emblée un été plus sec et plus chaud. Le pronostic est tout aussi sombre qu'est absurde le paradoxe d'inertie à y répondre. les élus et dirigeants politiques, abonnés au recul, ne peuvent continuer de s'entêter à remettre à demain la riposte aux défis tangibles d'aujourd'hui. Pas plus qu'ils ne peuvent persister à différer et à mener de front tant la modernisation d'infrastructures grises que la construction d'infrastructures vertes. Les crises tout aussi préoccupantes du coût de la vie, du logement ou de la santé n'éclipsent pas pour autant celles qui rattrapent inéluctablement citoyens et gouvernements tous les ans. Il reviendra aux électeurs d'exiger la cohérence d'une urgente action politique, le moment venu de voter cet automne. Peut-être verront-ils leur choix influencé par la mémoire un peu trop vive d'un été et de ces cataclysmes de toute nature qui viendra justement à peine de se terminer. Fin de cet éditorial de Marie Vassel titré « Dégout en éponge, l'adaptation climatique en différé », publié dans Le Devoir du 26 juin 2026.
Le chiffre 16. Un témoignage d'Orlando Seide, paru le 17 juin 2026 dans La Presse. La nouvelle du démantèlement d'une équipe de policiers à Montréal-Nord a ébranlé le sociologue Orlando Seide, qui l'a apprise au moment où il dirigeait un atelier d'écriture sur l'histoire du Québec en vue de la fête nationale. Je travaille dans un organisme communautaire comme coordonnateur des activités jeunesse. Chaque année, nous célébrons la fête nationale du Québec. Cette année, je suis responsable d'animer un atelier d'écriture avec un groupe d'adolescents. L'objectif consiste à écrire un texte collectif afin de rendre hommage à Guy Lafleur. Il y a quelque chose de beau dans cette idée. Inviter des jeunes à composer un cadavre exquis, où chacun écrit une ou deux phrases pour dire ce que Guy représente pour lui. Avant de commencer, je leur propose un jeu Kahoot sur l'histoire du Québec. L'un d'eux me demande « Qu'est-ce que je gagne si j'arrive premier? » Je réponds « La première place aura 20 $ ». Les questions défilent, puis arrive la dernière. Que te rappelle le 16 octobre 1970? Je regarde les jeunes chercher la réponse. Plusieurs se trompent. J'en profite pour expliquer la crise d'octobre, la loi sur les mesures de guerre, les arrestations massives, la mort d'un ministre québécois. Je profite alors d'un moment pour jeter un œil sur mon téléphone et sur le site de La Presse. Je tombe sur un titre. Une équipe de policiers démantelée par le SPVM. Des patrouilleurs sont soupçonnés de comportements racistes répétés et coordonnés. Des policiers auraient coupé les cheveux d'hommes appréhendés pour s'en faire des trophées. Je reste immobile. Le chiffre 16 vient de quitter le Kahoot pour entrer autrement dans la salle. Il n'est plus seulement le 16 octobre 1970. Il devient un chiffre froid et violent. 16 policiers visés par une enquête pour des gestes racistes dans notre beau Québec. Je regarde tristement les jeunes. Il y en a un qui connaît mes malaises. Il me fixe dans les yeux. Il me demande « Ça va? » Je réponds oui. Je ne veux pas dire la vérité. J'observe le visage de Guy Lafleur affiché sur l'écran de la télévision. Je pense au Québec qu'on veut transmettre comme une maison commune. Je pense aussi aux jeunes de Montréal-Nord qui apprennent très tôt que l'uniforme ne produit pas la même sensation de sécurité dans tous les corps. 16 policiers, ce n'est pas un individu isolé qu'on pourra détacher du reste du monde pour sauver notre confort moral. C'est peut-être la révélation d'un groupe organisé. 16. Un chiffre qui oblige à se demander qui voyait, entendait, riait, gardait le silence et trouvait cela normal. 16 est peut-être la circulation de la haine. Puis vient la coupe des cheveux crépus. Historiquement, ces cheveux ne sont pas seulement de la beauté. Ils sont des marqueurs d'identité, de dignité, de filiation et de résistance. Le fait de les couper de force et de les garder comme trophées me fait penser au Ku Klux Klan. Lynchage capillaire, déshumanisation, chosification du corps, noir. Un retour sous une forme policée d'un vieux réflexe colonial. La vieille fiction du dérapage individuel. Le racisme, quand il vient d'un passant, blesse. Quand il vient d'un groupe de policiers, il arrive avec l'autorité de l'État. Il peut arrêter, contrôler, imposer un soupçon sur un corps noir avant même qu'une parole soit prononcée. C'est cela que le chiffre 16 rend insupportable. Il brise la vieille fiction du dérapage individuel. Il oblige à regarder le racisme non pas comme une mauvaise pensée cachée dans la tête d'une poignée d'individus n'ayant jamais vu la mer. Le chiffre 16 force à constater que le racisme peut devenir une culture institutionnelle. Quand cette culture rencontre des jeunes déjà fragilisés par l'exclusion ou le simple fait d'avoir la maudite couleur de peau, elle devient un système. Quand elle devient un système, il devient plus difficile de l'attaquer, parce qu'il devient la norme. C'est cela qu'on appelle le racisme systémique. Dans la salle, les jeunes attendent que je rassemble leurs phrases pour le texte collectif. Sur l'écran, le 16 octobre 1970 reste affiché. Sur mon iPhone, 16 policiers soupçonnés d'actes racistes et haineux. Entre les deux, je ne sais plus quoi transmettre. L'histoire du Québec ou celle des jeunes noirs qui apprennent très tôt que l'uniforme qui promet sécurité et protection est un habit à surveiller. Je range mon téléphone dans ma poche. Je pense à Dany Laferrière, qui me conseille de ne jamais laisser le racisme prendre trop de place dans ma vie, pour ne pas rater l'essentiel. Alors, je reprends mon atelier avec les jeunes, les encourager à écrire des phrases inspirantes pour rendre hommage à notre Guy Lafleur. C'est mon mécanisme de défense, sous l'ombre bleue des 16 policiers, du PDQ 39 de Montréal-Nord. C'était le chiffre 16, un témoignage d'Orlando Seide, paru le 17 juin 2026 dans La Presse.
Recherche, le grand bond en avant de la Chine. Un texte de Marine Cornu, paru le 8 mai 2026 dans Québec Science. Quand la Chine se fixe un objectif, elle se donne en général les moyens de l'atteindre. L'essor actuel de la recherche dans ce pays en témoigne. D'ici 2 à 3 ans, il deviendra la première puissance scientifique mondiale, damant le pion aux États-Unis. Pour une nation qui a longtemps été considérée comme imitatrice plutôt qu'innovatrice, la revanche est explosive. Cette remontée fulgurante, dont plusieurs pays occidentaux n'avaient pas anticipé l'ampleur, était pourtant prévisible. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement chinois augmente de 10% par an ses investissements dans la recherche et le développement, quand les États-Unis s'en tiennent à environ 3 % selon l'OCDE. Au Canada, ça baisse. La Chine est désormais à la pointe de la recherche dans 90 % des technologies considérées comme cruciales. Intelligence artificielle, énergie nucléaire, satellite, défense. C'est ce qui ressort de l'analyse de l'Australian Strategic Policy Institute, dont la revue Nature a diffusé les résultats il y a quelques mois. Il y a 20 ans, les États-Unis dominaient la quasi-totalité de ces champs, et de loin. Cette effervescence dépasse les frontières. La science produite dans les laboratoires chinois est largement diffusée, le pays étant désormais le plus prolifique au monde sur le plan des publications scientifiques. Ainsi, dans la base de données Web of Science, en 2024, on recensait 878 300 articles signés par des équipes chinoises, contre seulement 26 200 en 2000. La qualité de ces travaux a longtemps été décriée, car les universités proposaient des incitatifs financiers pour pousser leurs ouailles à publier massivement, parfois dans des revues obscures ou en fermant les yeux sur le plagiat. Mais la critique ne tient plus. Le pays noircit désormais les pages des plus grandes revues scientifiques internationales, comme Nature, Science et Cell. Il contribue plus que les États-Unis aux publications les plus citées. Le 1 % des articles considérés comme les plus influents sur la scène scientifique mondiale. Autrement dit, la qualité est au rendez-vous. Autre cliché qui tombe. Même si les équipes chinoises ont tendance à beaucoup s'appuyer sur les recherches de leurs compatriotes et à les citer dans leurs travaux, elles sont aussi actives dans les collaborations internationales. Ainsi, environ 20 % de leurs articles sont co-signés avec des collègues d'universités étrangères. Le pays se démarque plus que tout en sciences appliquées, ingénierie et électronique, sciences des matériaux, physique et chimie. Pour continuer avec les chiffres étourdissants, la Chine est désormais à l'origine de plus de 40 % des nouveaux composés chimiques décrits dans la littérature scientifique. Cela dit, elle galope aussi pour rattraper son retard en exploration spatiale et en astronomie, domaines desquels elle a longtemps été absente. Elle pourrait d'ailleurs gagner la course à la Lune, puisque Beijing s'est engagé à ce qu'un équipage chinois alunisse d'ici 2030. Si le programme Artemis de la NASA continue à subir des retards, les taïkonautes pourraient bien arriver en premier. Côté équipement, le pays s'est aussi doté d'un immense radiotélescope de 500 mètres de diamètre, notamment FAST, dont les observations ont permis de doubler en un an le nombre de pulsars connus. Et il se prépare à construire ce qui sera le plus gros télescope optique dans l'hémisphère nord, le Large Optical Telescope. Vous remarquerez qu'il ne figure pas dans notre liste des futurs grands télescopes recensés dans ce numéro. Et pour cause, ce projet est gardé secret par le gouvernement de Xi Jinping et très peu d'informations à filtrer. C'est un paradoxe flagrant. Dans les pages de Québec Science, comme dans celles de nombreux médias d'actualité scientifique, la domination scientifique de la Chine passe sous le radar. Certes, notre mission première est de mettre en valeur la science d'ici, mais on discute aussi beaucoup avec des scientifiques d'Europe, des États-Unis et de partout dans le monde. Par habitude ou par négligence, nous avons moins tendance à rapporter les découvertes chinoises que les autres découvertes internationales. D'expérience, on sait qu'il est plus difficile de communiquer avec les équipes, d'abord en raison de la barrière de la langue, mais aussi parce que les scientifiques sont notoirement plus réticents qu'ailleurs à répondre directement aux médias. Toutefois, pour brosser avec justesse le tableau de la recherche scientifique mondiale, nous devrons tourner notre regard vers l'Orient. C'était « Recherche, le grand bond en avant de la Chine ». Un texte de Marine Cornu, paru le 8 mai 2026 dans Québec Science.
Comment le Québec a influencé le reste du Canada sur l'aide médicale à mourir?
Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 15 juin 2026 dans Le Devoir. Le Québec a été un précurseur en matière d'aide médicale à mourir, AMM, et il a influencé la loi canadienne qui a été adoptée par la Chambre des communes il y a 10 ans. Le Québec affiche aujourd'hui le taux d'AMM le plus élevé au monde, 7,9 % de tous les décès pour 2024-2025, un record, équivalent à 6268 décès en contexte d'AMM. À l'échelle du Canada, ce taux s'élève à 5,1 %, ce qui représente 16 499 décès dans ce contexte. Le nombre croissant de Québécois qui ont recours à l'AMM est-il le reflet d'un large consensus au Québec ou le symptôme d'un manque d'accès aux soins, faute de quoi les gens se tournent vers cette porte de sortie? Rappelons les faits saillants. En 2009, au Québec, une commission parlementaire transpartisane procède à une large consultation sur les conditions de fin de vie. En 2012, le rapport de la commission spéciale est déposé. En 2014, la loi concernant les soins de fin de vie est adoptée à l'Assemblée nationale, puis entre en vigueur en 2015. La même année, dans la cause Carter contre Canada, la Cour suprême du Canada invalide certains articles du Code criminel et reconnaît le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir sous certaines conditions. Le Parlement fédéral doit modifier son code criminel. En 2016, le projet de loi C-14 est adopté et le Canada devient ainsi un des rares pays à autoriser l'aide médicale à mourir. C'est clair que le Québec a vraiment été le précurseur, le leader, globalement, des soins de fin de vie. Il ne faut pas oublier ça, parce que la loi est plus large au Québec que juste la question de l'aide médicale à mourir, souligne en entrevue Véronique Yvon, qui a porté le dossier de l'AMM lorsqu'elle siégeait à l'Assemblée nationale. Il y avait plusieurs éléments d'encadrement qui étaient suggérés dans la décision Carter de la Cour suprême qui me semblaient directement inspirés par la législation québécoise qui avait été travaillée pendant un moment, dit-elle. Je pense qu'au Québec, ce qui explique que les gens ne craignent pas ou ont démystifié le recours à l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'on l'a fait avec beaucoup de dialogue social. C'est une approche qui a été complètement différente par le fédéral, parce que le fédéral s'est fait forcer la main par une décision des tribunaux, dit Mme Yvon, qui enseigne aujourd'hui au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Le temps de bien faire. Le docteur Laurent Boisvert, qui est porte-parole de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, AQDMD, est aussi d'avis que le Québec a fait un travail exemplaire. Ce qui explique d'ailleurs que l'aide médicale à mourir au Québec est soutenue par 90 % de la population, expose-t-il. Avec le recul, Véronique Yvon estime que le succès du Québec est surtout dû au fait que les parlementaires se sont donné du temps. Quand tu travailles avec la population comme on l'a fait, que tu consultes, oui, ça peut prendre plus de temps, mais ta loi est la meilleure, affirme-t-elle. Et ça, en politique, souvent, on veut tellement aller vite, on veut tellement produire des résultats rapidement que, des fois, on escamote des choses et, quand les réformes atterrissent, elles ne sont pas toujours bien achevées. La commission spéciale s'est déplacée dans 8 régions pour entendre les experts, mais aussi des citoyens qui avaient eu toutes sortes d'expériences avec des proches ou eux-mêmes. Ça se fait déjà. Aussi bien être bien encadré. La docteure Michèle Marchand, médecin et éthicienne, qui a pris sa retraite il y a 10 années, revient sur la genèse du débat sur l'AMM au Québec. Au début des années 2000, il y a eu des cas médiatisés qui ont été portés aux oreilles du Collège des médecins du Québec, CMQ, raconte la docteure Marchand. Elle cite notamment le cas d'une mère qui a aidé son fils dans la trentaine atteint de la sclérose en plaques à se suicider et celui d'un homme qui a aidé son oncle, tétraplégique, à s'enlever la vie. Le conseil d'administration du CMQ a entrepris une réflexion, jugeant que ce n'est pas adéquat que les gens aident des proches à s'enlever la vie et que, si quelqu'un doit le faire, ce sont les médecins, se souvient-elle. Quelques années se sont écoulées avant que le collège n'émette une position. Les médecins ont expliqué comment ils voudraient y participer et quelles étaient leurs limites dans la pratique médicale. Et c'est là que Mme Yvon a pris la balle au bon, relate la docteure Marchand. Je m'en suis réjouie parce que ce n'était pas à nous de dire « vous devriez décriminaliser l'euthanasie ». Le rapport du CMQ a été un des éléments qui ont fait en sorte que la députée Véronique Yvon a proposé la mise sur pied d'une commission spéciale, parce qu'il disait que, dans certaines circonstances, les médecins se retrouvaient face à des cul-de-sac thérapeutiques de personnes qui souffraient énormément en fin de vie, se rappelle-t-elle. La docteur Marchand se souvient que, avant même l'entrée en vigueur de la loi, certains médecins soulageaient des patients en fin de vie, pratiquant ainsi une forme d'aide médicale à mourir informelle. C'est très polarisé, le débat sur l'euthanasie, depuis toujours. Il y a des pour et des contre, et il n'y a personne entre les deux. Nous, on s'est dit, on ne veut pas ouvrir l'euthanasie à tout vent, mais ça se fait déjà. Aussi bien être bien encadré, souligne-t-elle. Notons que le terme « euthanasie » est moins utilisé au Québec qu'ailleurs dans le monde. Le terme « aide médicale à mourir » est une création québécoise issue de la commission spéciale. L'AMM et les soins palliatifs complémentaires. Le Québec s'est doté d'une commission sur les soins de fin de vie qui révise toutes les demandes d'AMM et produit un rapport détaillé. Les chiffres montrent que la majorité des gens qui ont recours à l'AMM ont reçu des soins palliatifs. Ce qui fait dire à Mme Yvon que ce n'est pas par manque d'accès aux soins que les gens se tournent vers cette option. Ce n'est pas par dépit, mais évidemment qu'il faut s'en assurer. Il faut toujours rester très vigilant par rapport à ça, et je pense que l'étude va être vraiment très éclairante pour ça, dit-elle, faisant référence à l'enquête du Consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir, qui se penche notamment sur la popularité de l'AMM au Québec. Le Dr Boisvert croit que, même si l'accès aux soins palliatifs était amélioré, il n'y aurait pas nécessairement moins d'AMM. Ce ne sont pas deux soins qui sont en opposition. Ce sont des soins qui sont dans un continuum, explique-t-il. Je donne de l'aide médicale à mourir à de nombreux malades qui reçoivent des soins palliatifs de qualité tant à domicile qu'en établissement. Mais ces gens-là en arrivent au point où ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont appelés à vivre ne correspond plus à ce qu'ils considèrent comme étant une vie digne. Il appartient à chacun de définir ce qu'est une vie digne pour lui, ajoute le médecin. Il y a des gens qui, à un moment donné, malgré les meilleurs soins palliatifs, en arrivent à dire « Non, moi, je ne continue pas cette vie-là. » Et on a l'immense privilège au Canada et au Québec d'avoir le droit de dire « C'est assez. » C'était « Comment le Québec a influencé le reste du Canada sur l'aide médicale à mourir. » Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 15 juin 2026 dans Le Devoir.